à votre santé sur RCN.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans À votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du mois sans tabac. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Fiorina, responsable du service prévention à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Bonjour.
Bonjour Lionel.
Et Yaël Panot, directeur d'établissement pour l'association Addiction France. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Alors tous les deux, vous êtes là parce que il y a ce fameux mois, hein, ce fameux mois sans tabac qu'on est en train de clôturer tout doucement. Alors on va essayer ensemble de revenir sur ce mois, de faire un peu un bilan et quelques constats. Tout d'abord, Vincent, c'est quoi le mois sans tabac pour les auditeurs qui ne connaissent pas ?
Alors, le mois sans tabac, c'est un dispositif, donc c'est la 9e édition cette année, pour rappel. Hein, et donc, c'est un dispositif, c'est un défi collectif qui est lancé à destination des fumeurs pour les inviter à arrêter de fumer pendant un mois. Mmh. C'est basé sur un concept anglo-saxon hein, de on se motive tous ensemble et on décide d'arrêter pendant un mois. Mmh. Arrêter pendant 30 jours, ça permet d'augmenter ses chances d'arrêt. Et puis, c'est l'idée de créer une émulation autour de l'arrêt du tabac.
Alors, il y a un chiffre, c'est arrêter 30 jours, on augmente de 5 fois ses chances d'arrêt.
Tout à fait. Après un mois sans cigarette, on multiplie par 5 ses chances d'arrêt définitif. Mmh. Donc, on considère qu'après un mois, le sevrage est déjà bien entamé et que les personnes multiplient leurs chances d'arrêt.
Mmh. Alors, on peut voir l'économie comme étant un moteur de motivation. Hein. La roue des économies du kit mois sans tabac, qu'est-ce que c'est déjà ?
Alors, le mois sans tabac, c'est donc un kit. Enfin, mmh. c'est tout un ensemble de dispositifs. Hein, mais pour répondre à ta question, c'est un kit qu'on peut retirer en pharmacie, mmh. Dans l'une des 18 000 pharmacies partenaires, qu'on peut commander sur Internet, qu'on peut aller retirer à différents endroits, et à l'intérieur duquel on va avoir de la documentation, une roue pour calculer effectivement les économies qu'on va réaliser en arrêtant de fumer, et on trouvera également des jeux, de quoi se divertir pour penser à autre chose si l'envie de fumer est présente.
Donc il y a cet aspect-là qui est, ça joue vraiment aussi dans la tête, hein, et je pense que au niveau d'Addiction France, ça fait partie des discours que vous avez auprès des personnes que vous rencontrez.
Oui, alors Addiction France, on s'inscrit pleinement évidemment dans le mois sans tabac, hein, mais c'est toute l'année effectivement qu'on va recevoir des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer. Après, le discours principal, c'est de dire à partir du moment où on est motivé, déjà on a fait le premier pas, c'est le principal.
Et est-ce que vous proposez aussi des outils pour gérer tout le volet ? Parce qu'on parle souvent de l'addiction physique, mais il y a un côté psychologique hein, lié au tabac. Est-ce que vous proposez des choses pour aider
Alors, le meilleur outil, ça reste l'accompagnement en fait. Il y a des outils, on l'a dit, dans le kit, il y a ces trous des économies qui peut être une source de motivation. Y en a d'autres, évidemment, mais le principal, c'est le meilleur outil, c'est l'accompagnement. Et c'est ce qu'on dit, c'est le message pendant le mois sans tabac, c'est que ce qu'il faut faire pour maximiser les chances d'arrêter de fumer ou de réduire sa consommation, c'est d'être accompagné par un professionnel.
Et ça, c'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, parce que aujourd'hui, on voit notamment sur les réseaux sociaux, il y a des solutions comme des applications mobiles ou la gamification, le fait d'essayer de jouer pour penser à autre chose. Au niveau d'Addiction France, c'est vraiment cet accompagnement humain que vous préconisez d'abord.
Alors, les applis, tout ça, ça reste de l'accompagnement quelque part. Mmh. Ça reste un soutien. C'est des outils qui permettent de soutenir. Après, on peut tout à fait réussir. On ne dit pas que sans l'accompagnement, on ne réussit pas. Il y a des applications. Alors, il y en a une qui est gratuite, c'est Tabac Info Service. Mmh. Il y en a qui sont payantes, qui sont très bien faites. Ça peut être un outil. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à arrêter grâce à ces outils-là parce qu'il y a un certain coaching. Alors, c'est souvent de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même un coaching qui est fait dessus. Mmh. Il y a la possibilité de voir comment on évolue dans l'arrêt de sa consommation. Ça permet aussi de calculer des économies. Enfin, voilà, ça peut être pas mal. C'est une forme d'accompagnement. Donc, si ça fonctionne avec certaines personnes, c'est comme un peu les trucs alternatifs, l'hypnose, ce genre de choses. Hein. On ne dit pas de ne pas le faire. Hein. Il faut trouver la meilleure méthode. Nous, celle qu'on pratique le mieux, ça reste l'accompagnement. Après, l'accompagnement, ça peut consister justement à aider la personne à aller dans ces formes alternatives, par exemple.
Y a aussi des questions qui se posent par rapport à l'arrêt progressif ou à l'arrêt brutal. Certaines personnes ne savent pas trop où se situer. Est-ce qu'il vaut mieux y aller par étapes ou alors... est-ce que ces deux approches ont des limites, des avantages ?
C'est très dépendant de chaque personne en fait. Il y a des personnes, vous les interrogerez, vous diront moi j'ai arrêté brutalement, j'ai réussi. Bah, après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la motivation, certes, mais ça va dépendre aussi, on est tous, on n'a aucune égalité sur la manière dont le corps va réagir. Ça dépend aussi de la consommation de base. Quelqu'un qui fume un ou deux paquets dans la journée, j'ai un doute quand en fait qu'il va réussir du jour au lendemain à arrêter pleinement. Mmh. Parce qu'on est sur une dépendance aux produits, certes, mais il y a aussi une dépendance comportementale. Il y a toutes les habitudes qu'on a prises avec le café, pendant la pause, voilà, le geste. Mmh. Donc, ça va dépendre, je pense, de la motivation et de la consommation de la personne de base. Après, il n'y a pas de meilleure méthode, ça dépend encore une fois de chacun. Alors on peut en parler à un professionnel qui pourra par exemple prescrire des traitements substitution nicotinique, ça peut être une solution. Et là encore, il y en a différents, des traitements, il y a différents dosages en fonction de la consommation de base, il y a différents modes d'utilisation de ces traitements. Il y a les patchs qu'on connaît, il y a les inhalateurs, il y a des gommes, tout ça. Et là encore, pareil, des personnes vont vous dire, moi j'ai fait une séance d'hypnose et dès le lendemain j'ai arrêté. Vraiment, ça dépend de chaque personne, mais le mieux, ça reste d'en parler à un professionnel, même si c'est qu'une seule consultation, mais d'en parler, de dire voilà ma situation, et le professionnel pourra orienter au mieux vers les solutions les plus adaptées.
On parlait des outils, on parle aussi du geste, ce geste qu'on voit souvent dans des films, dans des clips. Il y a le tabac a été au fil des années rendu sexy entre guillemets dans son usage, et d'un autre côté il y a parfois aussi sur certaines campagnes de la peur ou de la culpabilisation. Quels sont les leviers que vous avez chacun de votre côté pour faire du tabac peut-être une habitude démodée, mais sans trop culpabiliser les fumeurs et les fumeuses?
Alors, il y a plusieurs choses à dire. Alors, effectivement, le côté sexy, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Allez, si on parle des années 70-80, ouais, c'était sexy, c'était quelque chose qu'on faisait en groupe. Mmh. Aujourd'hui, alors si on se place du côté des jeunes, si on les interroge, aujourd'hui, le tabac, c'est plus une forme pour être cool, pour être... je vais pas utiliser des termes qu'aujourd'hui, on va dire je suis has-been, mais voilà, on paraît plus cool maintenant.
Plus swag.
Quand on
voilà,
c'est ça. C'est, aujourd'hui, chez les jeunes, ça a plus cet effet-là, et heureusement. Comme ça, on se rapproche doucement vers la génération sans tabac, c'est 2032, hein, c'est les objectifs nationaux, on y croit encore. Donc aujourd'hui c'est plus ça. Après il y a eu des lois qui l'ont encadré, on peut citer la loi Levin, mais pas que, voilà, on peut plus en faire la publicité. Et à côté de ça, effectivement, il y a des stratégies qu'on a mis en place qui sont pas forcément utiles. Alors je pense par exemple au paquet de cigarettes avec ces images choc dessus. On sait aujourd'hui dans la prévention, c'est les études qui le montrent, avoir un discours choc, avoir des choses très négatives, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Nous plutôt chez Addiction France, on préférait les paquets neutre, voilà, où il n'y a rien dessus, voilà, ça a plus d'intérêt. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Après, ce qui fonctionne pas mal, c'est d'autres stratégies comme le prix du paquet. Ça, on le sait. Alors, c'est pas
dissuasif.
Trop marketing. C'est dissuasif, on le sait. Au fur et à mesure qu'on augmente le prix du paquet, on a moins de consommation. Alors, on est dans un pays, enfin dans une région proche d'autres pays.
Bien sûr.
Voilà, donc il y a une autre dynamique chez nous, mais en tout cas de manière générale au niveau national, on le sait qu'augmenter le prix du paquet, ça va automatiquement réduire la consommation.
Et ça évite l'entrée de nouveaux fumeurs aussi.
C'est ça.
Oui, c'est ça, parce que il y a au niveau des jeunes, tout ça, je pense qu'il y a une forte sensibilisation à faire. En France, on a, il me semble, une culture liée à la clope, en tout cas qui est rentrée dans les mœurs. On parle de post-clope. Il y a le fameux café club. La clope est associée à beaucoup de choses. Donc, les jeunes qui arrivent dans cette société, qui deviennent de jeunes adultes, prennent aussi ces habitudes, hein, la post-clope. Hein. Comment, au niveau de la CPM, quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, nous, quand on les rencontre, et on les rencontre d'ailleurs avec Addiction France, quand on les rencontre, on discute avec eux de leur représentation, hein, du tabac. Pour beaucoup, alors en fait, comme le disait Yael, c'est plus aussi cool et aussi cité qu'avant. Avant, la cigarette était vue comme un moyen de passer le temps. J'attends le bus, je fume une clope. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années avec les smartphones, le passer le temps, il peut être fait de plein d'autres manières. Alors, je rentre pas sur la dépendance aux écrans, mais en tout cas...
ça serait une autre émission.
Ça peut être l'objet d'une autre émission. Mais en tout cas, c'est plus forcément vu comme quelque chose d'indispensable. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du tabac, avec les différentes politiques qui ont été menées, Yael citait la loi Evin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de ne plus avoir le droit de fumer dans les lieux publics, de ne plus avoir prochainement le droit de fumer en terrasse, c'est de plus en plus une marginalisation du fumeur. Et aujourd'hui, c'est 22-23% de fumeurs quotidiens. C'est un chiffre qui tend à à ne pas augmenter, en tout cas à stagner, voire à diminuer. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces politiques, l'ensemble de ces politiques qui est mise en place, et nous on intervient avec Addiction France dans les structures qui accueillent des jeunes, notamment École de la Deuxième Chance, Mission Locale, et bon, vous avez toujours la personne qui a cette addiction, donc pour laquelle il y a, comme disait Yael, il y a tout un travail d'information à lui apporter, d'attendre qu'elle soit prête, parce que pour arrêter de fumer, il faut être prêt, il faut en avoir la volonté. Nous, l'idée, c'est de venir lui apporter les éléments pour que le jour où il sera prêt à arrêter, il ait les informations et qu'il puisse entamer sa démarche d'arrêt dans les meilleures conditions pour qu'il puisse y arriver. Que ce soit des défis collectifs comme le mois sans tabac, mais effectivement, l'arrêt du tabac, c'est tout au long de l'année. L'accompagnement par un professionnel de santé, par un ou des professionnels de santé, avoir des traitements de substitution adaptés à la personne, à ses besoins. Voilà, c'est l'ensemble des informations qu'on va apporter pour que la personne, le jour où elle se sentira prête, elle puisse passer à l'action dans les meilleures conditions et optimiser ses chances de réussite.
Tu nous parles d'autres moyens, enfin de moyens de substitution. On entend parfois aussi parler de la cigarette électronique comme étant un moyen de substitution. Est-ce que fumer autrement, c'est un faux ami, Yael, de nombreux fumeurs, de nombreuses fumeuses pensent avoir trouvé une alternative crédible avec la cigarette électronique. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau d'Addiction France ?
Alors effectivement, il y a des personnes qui vont dire « moi j'ai arrêté de fumer parce que je suis passé à la cigarette électronique ». J'ai envie de dire tant mieux s'ils ont réussi. Maintenant, il y a une première chose, c'est qu'on n'a pas encore assez de recul sur les produits qu'on inhale avec la cigarette électronique. Ça, je le pose là, voilà, mais c'est bien de le rappeler. Au-delà de ça, nous, ce qu'on a plutôt tendance à véhiculer comme idée, c'est que ça ne devrait pas être le premier réflexe. Il faudrait plutôt aller vers des traitements de substitution nicotinique plutôt qu'aller d'abord vers la cigarette électronique. Déjà parce qu'encore une fois, on n'a pas le recul. Aussi parce que quelque part, on garde le même geste. Alors, on parle de ceux qui ont réussi à arrêter la cigarette grâce à la cigarette électronique. On ne parle pas souvent de ceux qui sont revenus à la cigarette classique parce qu'ils ont gardé finalement les habitudes comportementales liées en fait au tabac classique et à la cigarette électronique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on conseille, c'est plutôt d'envisager d'autres solutions avant d'aller sur la cigarette électronique, et si on le fait, de le faire accompagné encore une fois d'un professionnel de santé qui permettra aussi de calculer le dosage, parce que des fois il y a aussi de la nicotine dans les produits qu'on peut inhaler, et il y a des erreurs de dosage, c'est-à-dire qu'on va pas forcément voir le bon dosage, on va des fois plus consommer avec la cigarette électronique de nicotine que avec le tabac. Donc le mieux, c'est de se faire accompagner, c'est de pas d'y aller comme ça seul. Voilà, bon, encore une fois, il y en a qui vont écouter, qui vont dire mais moi j'ai réussi, tant mieux. Mais vraiment, ce qu'on invite, c'est de plutôt en parler avec un professionnel de santé et d'envisager d'autres choses avant de passer à la cigarette électronique.
Alors, avant de terminer cette émission sur la sensibilisation, aujourd'hui, le chiffre, c'est que on a 132 000 personnes inscrites pour le mois sans tabac. Un commentaire sur ce chiffre, Vincent ?
Non, chaque année très content de voir que de nombreux fumeurs s'engagent dans ce dispositif et tentent l'arrêt. Si c'est pas cette année et qu'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Tant mieux qu'ils soient venus dans cette démarche. L'important, c'est d'avoir la volonté, comme on l'a dit. L'important, c'est d'essayer. Parce que une tentative d'arrêt, même si elle ne va pas au bout, ça reste une bonne chose, ça reste une bonne expérience pour s'interroger sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
Ça, c'est un message aussi à faire passer aux auditrices, aux auditeurs. Même si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout, ne soyez pas découragés.
C'est ça. On entend souvent des personnes qui nous disent « Moi, j'ai déjà arrêté, ça n'a pas fonctionné. » Alors, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Voilà. La personne qui a tenté l'arrêt, elle capitalise une expérience qui sera bénéfique les fois suivantes. Et peut-être que c'était le mode de l'accompagnement qui n'était pas suffisant, le mode de traitement de substitution qui ne fonctionnait pas, et qu'un autre sera plus adapté la prochaine fois. Peut-être que ce n'était pas le moment, tout simplement, dans la vie de cette personne. Et la fois suivante sera peut-être la prochaine. Donc voilà, il y a ce message-là. Et l'autre message, c'était de dire que là, c'est le mois sans tabac, mais l'arrêt du tabac, c'est quelque chose qui peut se faire à n'importe quel moment, tant qu'on est bien accompagné, qu'on a la volonté de le faire. Pour rappel, l'assurance maladie prend en charge les traitements nicotiniques de substitution toute l'année, à partir du moment où c'est prescrit par un professionnel de santé, quel qu'il soit en plus. C'est quelque chose qui peut être fait à n'importe quel moment, dès qu'on se sent prêt.
Le mot de la fin, Yael.
Alors, j'en terminerai par un chiffre. 6 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter de fumer. Donc, le mois sans tabac, c'est peut-être le moment le plus favorable pour passer le pas.
Très bien, eh bien, je vous remercie tous les deux. Je rappelle que Vincent Fiorina, tu es responsable du service prévention de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Yael Pano, tu es directeur d'établissement pour l'association Addiction France. J'espère que ces quelques conseils seront bénéfiques pour nos auditrices et nos auditeurs afin d'arrêter définitivement. On leur souhaite de fumer. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de
la vaccination.
De la vaccination.
Et le COVID.
Eh oui, merci beaucoup et au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.